Imaginez que je vous donne une feuille de papier, une seule, et pensez à ce que vous pourriez faire avec. Alors, comme ici, on est adulte, on est sérieux, certainement notre première idée, ça va être d'écrire dessus. Si on est romantique, on fera une lettre d'amour. Si on est pragmatique, on fera la liste des courses. Mais on va s'en tenir à une fonction, écrire. Et si cette feuille, on la pliait, on en faisait un bel origami pour décorer une chambre d'enfant. Et si cette feuille, on la déchirait, on en faisait des confettis pour un événement. Si on l'allumait pour allumer un feu, se réchauffer. En fait, si on la transformait, si on sortait de sa première fonction, eh bien, si on faisait ça, on pourrait imaginer de nouveaux potentiels. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'on est bloqué. On est bloqué par ce qui s'appelle la fixité fonctionnelle. La fixité fonctionnelle, c'est un blocage mental qui va se mettre en place vers 7-8 ans, qui fait que chaque chose aura une utilité et une seule. Avant ce moment-là, eh bien, tout est ouvert. Ça, c'est ma fille, Lily, qui a 8 ans. Elle n'est pas encore atteinte de cette fixité. Vous lui offrez un cadeau, vous avez toutes les chances qu'elle joue avec l'emballage et le carton, qu'elle s'imagine des montagnes, des tapis volants, et ensuite, elle découvrira le jouet. Mais ensuite, on va évoluer. C'est-à-dire que, pour des raisons de normes sociales, pour ranger la chambre aussi, on va commencer à s'attribuer une fonction à une chose. C'est bien pour fonctionner en société, mais quand le monde devient bizarre, quand les ressources manquent, quand il va falloir réorganiser cela, si on pouvait changer notre façon de percevoir les ressources, de les transformer, on pourrait ouvrir le champ des possibles. Et le jeu permet cela. Je vais vous donner 3 illustrations pour remettre notre monde en jeu. Ça, c'est hier matin, 8h10, j'appelle ma fille pour partir à l'école. Et je vois arriver une licorne. Je dis, mais on va à l'école? Je dis, oui, mais j'étais très occupée, je jouais. Je jouais, j'étais sur mon lit, qui n'était d'ailleurs pas son lit, mais un château, les coussins, c'était des nuages. Enfin, il y avait toute une situation élaborée, complexe, et elle était investie dans sa tâche. Le jeu crée un cercle magique. Une fois qu'on est dans ce cercle magique, on est protégé. Ça veut dire qu'on a le droit d'être une licorne. On sait que ce n'est pas vrai, mais on a le droit de se sentir pleinement investi. Ça s'appelle l'état de flux. On perd la notion du temps, on perd la notion de l'espace. Et puis à un moment, on enlève son costume de licorne et on part à l'école. Pour nous, sérieux, adultes, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ce cercle magique? Ben, le costume de licorne, on peut peut-être l'avoir à un certain moment, par exemple si dans votre entreprise, il y a un Fab Lab, un tiers lieu dans lequel on peut aller prototyper, apprendre, faire les choses différemment. Ça peut être un temps et non pas un espace. Ça peut être 2 heures par semaine, un temps libre pour se pencher sur des projets innovants, décalés. Mais chacun doit trouver son cercle magique et son costume de licorne. 8h15, sur le chemin de l'école. L'école étant tout droit, le parc étant à gauche, un événement majeur se produit, un gros chat roux arrive. Et là, ma fille me dit, on dit que si le chat traverse la route, on passe par le parc. Bien entendu, le chat a traversé la route, on est passé par le parc. Pourquoi se soumettre à l'aléa? Mais parce que l'aléa, au-delà de la surprise, va pouvoir ramener du potentiel dans la décision. Prenons un exemple étrange. Les Indiens Naskapi. Les Indiens Naskapi avaient une technique de chasse très particulière. Donc ils chassent le caribou, enfin ils chassaient le caribou. Et donc chaque soir, le chaman réunissait la tribu autour du feu. Il allait prendre les os du caribou, manger lors du repas, il les jette dans le feu, les os éclatent, désignent une direction, et le lendemain, toute la tribu va les chasser là-bas. Peut-être qu'ils verront des caribous, peut-être pas. C'est dommage, parce qu'on savait très bien que près de la rivière, il y en a. Pourquoi ne pas y retourner? Bien, pourquoi ne pas y retourner? Selon les Naskapi, si on retourne toujours au même endroit, soit on épuise la ressource, soit les caribous, au bout d'un moment, vont comprendre et vont partir. Donc, pour pouvoir fonctionner à moyen terme, eh bien, chaque jour, ils explorent de façon aléatoire de nouvelles contrées. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans notre entreprise, dans notre organisation ? Mais ça peut vouloir dire accepter de fonctionner différemment. Par exemple, je connais une directrice qui, tous les lundis matins, va aller se perdre volontairement 30 minutes dans un service de son organisation. Pas d'objectif, pas d'agenda, pas de smartphone. Et puis elle est là. Eh bien, elle va se laisser surprendre, et d'ailleurs ça surprend aussi beaucoup les collaborateurs, discuter, échanger, prendre la température. Accepter l'aléa, accueillir l'aléa. Troisième étape, 8h25, les grilles vont fermer. On s'approche de l'école, et là, un petit camarade nous double et crie, spécifiquement, « Le sol, c'est de la lave !» Et là, vous voyez une nuée d'enfants s'agripper aux arbres, monter sur tous les grillages et se suspendre, et aucun ne descend pendant au moins 30 secondes. Alors cela surprend, mais c'est une règle d'un jeu. À un moment, une fois que vous avez votre cercle magique, une fois que vous remettez de l'aléatoire, il va falloir faire rentrer d'autres gens dans votre cercle, créer des règles. Ça peut en être une, mais c'est à vous aussi de formuler ces règles qui vous permettent de réouvrir le champ des possibles. Dans mon organisation, dans un organisme d'enseignement supérieur, on a une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, les ouvrages sont classés par ordre alphabétique. Eh bien, pendant toute une période, on a changé notre façon de classer les ouvrages. Au lieu de dire que c'est de A à B, C, D, etc., on a classé les ouvrages en fonction des valeurs qu'ils véhiculaient. La ténacité, l'engagement, la résilience. Et du coup, les personnes qui venaient au sein de cette bibliothèque ont changé leur façon d'appréhender cela. Maintenant, à mon tour. Quel est mon cercle magique ? Alors, mon cercle magique, il a une forme particulière, ce n'est pas un cercle, c'est un carré. D'ailleurs, ce n'est pas un carré, c'est un cube. Plus spécifiquement, c'est le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, au départ, c'est un jeu. Certains d'entre vous ont peut-être essayé de le résoudre, certains peut-être savent le résoudre, mais c'est un jeu dans lequel on va essayer de résoudre un problème, remettre les facettes avec les bonnes couleurs. Eh bien, moi, je vais vous proposer de changer les règles. On va utiliser le Rubik's Cube pour modéliser une situation et l'ouvrir. Et on va prendre un cas. On va prendre justement le cas de cette bibliothèque. Bibliothèque, aujourd'hui, qui va en bibliothèque, quels sont les besoins, etc. Admettons que l'on donne à chaque face du Rubik's Cube une dimension liée à l'innovation. Par exemple, la face orange, ça sera les utilisateurs. Par exemple, ici, on pourrait dire le grand public. La face grise, blanche, ça sera les ressources. Le public peut être une ressource propre d'une bibliothèque. La face verte sera les lieux. Et pourquoi ne pas avoir de café dans la bibliothèque ou une bibliothèque dans un café ? La face rouge, ça sera les bénéfices pour l'utilisateur. Donner accès à la connaissance, ça semble relativement classique. La face bleue, ça sera « et si tout ça était ?» Le perturbateur, par exemple, accueillant. Et enfin, la face jaune, le modèle de revenu qui rend tout cela stable. Par exemple, l'abonnement. Donc, bien entendu, vous remplissez tout le cube, ça vous fait beaucoup de possibilités. Et ensuite, on mélange. Le moment jubilatoire pour ceux qui n'ont jamais réussi à le résoudre, puisque le principe est donc de l'explorer. Que pourrait-on donc imaginer pour le grand public, en utilisant le public lui-même, dans les cafés, de façon accueillante, pour donner accès à la connaissance ? Idée ? Et si on faisait une librairie bibliothèque humaine. C'est-à-dire que si au lieu d'emprunter un livre pour comprendre un sujet, j'empruntais un être humain. Par exemple, je voudrais comprendre le rapport au corps, empruntons un naturiste. J'aimerais bien comprendre un aspect religieux, empruntez un moine bouddhiste. et faites connaissance. Et ce principe existe d'ores et déjà. Ça s'appelle du coup la librairie humaine. Du coup, le principe de créer ce cercle magique vous permet d'explorer un champ des possibles. J'ai appelé cette méthode cubification. Parce que selon moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre les idées à plat comme sur une feuille. Il faut les mettre en 3D, les rendre manipulables. Il faut mettre vos idées au cube. Merci.